Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans la JT du local pour la dernière émission de la semaine puisque nous sommes aujourd'hui le vendredi 14 janvier, évidemment, avec là aussi pas mal de petites choses. Alors, on va faire un peu le tour du menu de cette émission. En entrée, je vous propose de faire un petit bilan sur les illuminations de Laval, avec notamment ce changement du marché de Noël avec son installation place du 11 novembre, ce qui permet à la municipalité de faire quelques tests pour les futurs travaux, vous l'entendrez. En plat principal, on parle des 17e rencontres cinéma et santé avec Atmosphère 53, avec 8 films du 17 au 28 janvier à retrouver dans tout le département. Et en dessert, préparez-vous puisqu'on parle rugby à Château-Gontier avec Steven. Donc là aussi, plaquage au menu, etc., etc. Vous avez compris. Mais tout de suite, on va faire un point sur l'actualité avec près de 700 à 1000 enseignants grévistes dans les rues de Laval hier à l'occasion de l'appel national à la grève, très suivi un peu partout, reçu avec d'autres syndicats en préfecture hier après-midi. Le SNUDI FO53 se dit déçu d'un entretien où aucune réponse n'aurait été apportée à leurs revendications. Le syndicat continue de demander une hausse des salaires, l'arrêt de protocoles qu'il considère inapplicables et de réelles mesures de protection pour les personnels. À Évron, hier, il n'y a pas que les profs qui ont manifesté, les lycéens aussi, pour exiger le remplacement d'une prof de français absente pour des raisons personnelles depuis 3 mois. Devant le lycée Raoul Vatepied, ils étaient une centaine d'élèves mobilisés hier pour alerter sur leur situation. Un taux d'incidence toujours stratosphérique dans la région, selon les mots de l'Agence régionale de santé. Il s'établit à 2294 cas de Covid pour 100 000 habitants. Selon l'ARS, le pic de l'épidémie pourrait être atteint dans les prochaines semaines. 170 clusters ont été détectés au cours des 7 derniers jours. Et le rectorat, lui, dénombre chaque jour entre 150 et 400 classes fermées sur l'ensemble de l'académie. En parallèle, les opérations de vaccination se poursuivent. Une est organisée notamment demain au SDIS pour les moins de 30 ans. Le SDIS, c'est donc le service départemental d'incendie et de secours de la Mayenne, situé à Saint-Berthevin. La prise de rendez-vous se fait uniquement par téléphone de 8h à midi et de 14h à 17h30 au 02 43 53 53 00. Les soirées dansantes désormais interdites dans les salles polyvalentes, c'est l'objet d'un nouveau décret du préfet de la Mayenne, Xavier Lefort. Jusqu'au 23 janvier, les activités dansantes festives sont donc interdites dans les établissements recevant du public, mais les cours et compétitions de danse ne sont pas concernés. Et puis une autre conséquence de la crise sanitaire, l'annulation du forum de l'enseignement supérieur. Il était prévu à Laval, à la salle polyvalente, les 21 et 22 janvier. Il pourrait être reporté à la fin de l'année. À Laval, par contre, eux sont maintenus, les vœux en fanfare, cérémonie en musique et en extérieur, au départ des différentes maisons de quartier de la ville avec les élus. Rendez-vous aujourd'hui à 17h à la maison de quartier Laval-Nord et à 18h30 à celle d'Avenières-le-Tertre. Demain, ce sera à 11h à Saint-Nicolas et à 15h au Bourny, sans oublier celle du centre-ville prévue dimanche à 15h devant l'hôtel de ville. Et si vous voulez poser vos questions directement au maire Florian Berco, vous pourrez le faire lors d'un Facebook Live lundi à 18h30. On reste à Laval, où, vous l'avez remarqué, hein, les guirlandes lumineuses ont été enlevées depuis quelques jours, l'heure de faire le bilan des illuminations de Laval 2021. C'était donc les premières du mandat de Florian Berco et de son équipe qui se disent ravis de cette édition. Avec 3 chiffres pour la définir, 80 000 personnes environ sont venues au marché de Noël les 2 week-ends. La Grande Roue a fait 27 000 entrées pour cette première, le tout pour un budget global de 390 000 euros. Et puis nouveauté aussi, les Lumières vont désormais investir chaque année un quartier. On a commencé cet hiver donc par celui du pavement, avec un objectif pour Bruno Berthier, premier adjoint chargé des transitions urbaines et commerciales.
C'est de fédérer le maximum de gens. En cela, on est satisfait sur l'édition 2021, c'est qu'on a fédéré beaucoup de gens et toutes les strates de la population. Et ça, c'est là qu'il y a un succès. C'est-à-dire qu'on a parlé à tout le monde. Les Lumières 2021 ont parlé à tous les Lavallois, déjà, et toutes les Lavalloises, au quartier, ça a été dit, à l'agglomération et très certainement au département et au-delà du département. Et c'est là la réussite. C'était des lumières ouvertes vers l'extérieur et qui ont permis de faire redécouvrir aussi le patrimoine de la ville de Laval. Et ça, c'était important.
Autre changement opéré lors de cette édition, le marché de Noël a déménagé du Square de Boston jusqu'à la place du 11 novembre. Un pari gagnant pour Camille Pétron, adjointe chargée de l'animation de la ville et des quartiers.
De très bons retours concernant les mobilités. tous les parkings aux alentours, les personnes arrivaient à trouver de la place. Il n'y a pas eu, en tout cas, de crispation par rapport au fait de se rendre sur le marché de Noël ou de se rendre aux lumières et de ne pas pouvoir se garer au centre-ville. Donc ça n'a pas du tout été relevé comme étant un problème. Au contraire, l'installation du marché de Noël sur le cours Clémenceau et sur la place du 11 novembre a été très, très bien perçue par les exposants, par les visiteurs aussi. Et donc, voilà, ça a vraiment permis de créer une dynamique commerciale entre les deux grandes, rue de la Paix et puis Général de Gaulle, de pouvoir aussi coudre le parcours des Lumières et d'avoir donc vraiment quelque chose de cohérent et de continu.
Le projet qu'on porte pour la place du 11 novembre, demain, accueillera le marché de Noël. Donc, on voulait tester dès cette année une place du 11 novembre sans stationnement. Voilà, ça s'est assumé. Ça nous donne envie de poursuivre, en tout cas, sur cette voie-là, parce que ça a été fortement apprécié. On veut tester avant le démarrage des travaux, c'est-à-dire 2023, tout type d'animation sur cette place du 11 novembre, puisque demain, la place du 11 novembre, c'est une place où on y restera, c'est-à-dire conviviale, où il y aura l'animation, entre autres. Sur l'édition 2022, il est encore trop tôt pour vous le dire, mais très certainement qu'on va y réfléchir pour que ce marché Noël reste sur la place du 11 novembre, pour encore certainement améliorer des choses, parce que tout ça nous sert pour la livraison de la place en 2025. On va faire beaucoup d'expérimentations là dans les deux ans qui viennent sur la place du 11 novembre, et les Lumières de Laval, c'était aussi d'aller chercher ce qui marchait, ce qui marchait pas.
Et la prochaine étape, c'est donc le démontage du monument aux morts qui démarrera dans les prochaines semaines. Pour le début des travaux en tant que tel, il va falloir attendre l'automne 2023. On va parler, je vous le disais, de cette 17e rencontre cinéma et santé, mais ça, ce sera juste après avoir écouté Hills avec Are We Alright Again. Walking down the street or walking on the moon, what's it matter? Out of my cocoon, step into the sunshine, man, it feels good. Birds and bees jamming, a theme for the neighborhood. Are we alright again? Are we around the bend? Am I lucky or brave? Are you stronger today? Are we alright again? Yeah, I think we're alright. Look up at the sky, don't you think you could? Birds and bees jamming, they're tuned for the neighborhood. They sing. That far. Are we alright again? Are we all on the mend? Am I lucky or brave? Are you stronger today? Are we alright again? Yeah, I think we're alright. Looking back, I don't know how, but I can see clear up ahead. Pass it over to that mangy cat. Well, he's been through a lot now, more than you and me. Let's give him what we got, that's who you want to be. Are we alright again? Can I finally hit send? Am I lucky or brave? Are you stronger today? Are we alright? Stronger today. Are we alright again? Yeah, I think. C'était Hills, Are We Alright Again, dans l'AJT du local sur l'autre radio. Et après la musique, place au cinéma avec le coup d'envoi lundi des 17e rencontres cinéma et santé, un événement organisé par l'association de promotion du cinéma Atmosphère 53, en partenariat avec plusieurs hôpitaux et acteurs du monde de la santé dans le département et un petit peu plus large. 8 films proposés dans plusieurs cinémas du département, donc suivis de débats avec des médecins, des infirmiers, des psychologues, des sages-femmes ou encore des réalisateurs. Coup de projecteur justement sur cette programmation riche et diversifiée.
Donc, je m'appelle Noé Lignel et je suis chargé d'action culturelle à Atmosphère 53.
Atmosphère 53 qui, ça y est, peut organiser là les 17e rencontres cinéma et santé qui vont commencer lundi prochain, le 17 janvier. Ça aura lieu jusqu'au 28 dans 8 cinémas du département. Là aussi, encore d'autres cinémas qui ont rejoint l'aventure. Je dis ça y est, puisque malheureusement, comme d'autres événements, ça avait été annulé à cause de la crise sanitaire l'an dernier. Là, j'imagine que c'est aussi un soulagement, malgré la situation un peu particulière, de pouvoir maintenir l'événement et proposer là aussi 8 films lors de cette semaine.
Effectivement, oui, c'est vrai qu'on doutait jusqu'aux dernières allocutions du fait que les cinémas puissent rester ouverts. C'est une programmation à laquelle en plus on tient beaucoup, puisque c'est vrai que cette année, c'est pas toujours le cas, mais elle peut aborder des sujets très très divers par rapport à la santé, que ce soit la santé mentale ou la santé physique. Et donc c'est vrai qu'on est assez content de cette programmation qu'on avait déjà en partie prévue l'an dernier, même si voilà, il y a quelques films qui ont été ajoutés parce qu'il y a eu des nouveaux films intéressants dans l'actualité. Donc on est très très content de pouvoir maintenir ces rencontres.
Des rencontres, évidemment, comme son nom l'indique, donc qui mêlent cinéma et santé, mais les thèmes sont vraiment très très larges. Hein. Je crois qu'il y a, parmi les 8 films, il n'y en a aucun qui traite exactement de la même chose. Cette programmation, est-ce qu'elle est faite aussi avec vos partenaires, que ce soit aussi bien les instituts de formation d'infirmiers et infirmières, les hôpitaux, à chaque fois c'est réfléchi ensemble ?
Effectivement, ouais. Les rencontres cinéma et santé sont programmés, organisés et par les partenaires qui sont aussi des relais de communication. Donc, effectivement, tu as cité l'IFSI, là, l'Institut de soins infirmiers, mais il y a aussi le CHNM, le Centre hospitalier du Nord-Mayenne. Il y a différentes associations, certaines qui sont là depuis très longtemps dans le comité de programmation, comme France Alzheimer. Les cinémas sont partenaires aussi, parce qu'il faut savoir que la spécificité de ce comité, c'est qu'il est constitué à la fois de personnel de santé et de cinéma aussi, d'exploitants, ce qui permet aussi de proposer des films accessibles au grand public, parce que le regard n'est pas toujours le même. Des fois, il y a des films qui paraissent évidents pour quelqu'un qui travaille dans ce milieu-là et finalement qu'on trouve peut-être moins accessibles pour tout le monde. Donc voilà, il y a les exploitants et puis parmi nos partenaires, il y a aussi les communautés de communes et notamment les contrats locaux de santé qui, eux, sont présents au sein du comité et qui sont un vrai relais aussi pour trouver des intervenants à la suite des films, mais surtout des intervenants locaux. Parce que là, dans cette programmation, on a beaucoup d'intervenants locaux. On a aussi la chance là, d'avoir des réalisateurs qui viennent d'un peu partout pour présenter leurs films. Mais il y a des médecins, des infirmiers, des psychologues sur le département. Donc, on trouvait ça important aussi que ce soit des personnes qui viennent d'ici pour parler des films.
Chaque projection est accompagnée aussi de cet échange à l'issue avec ses professionnels. Et donc, ça va commencer, je le disais, dès le lundi 17 janvier. Vous pouvez la voir certainement sur les affiches. Une jeune fille, Mila, donc avec sa chevelure bleue. Et donc l'affiche est très solaire pour un sujet qui est pourtant, qu'on peut estimer en tout cas assez grave, assez important, puisque cette jeune fille, elle a un cancer.
Effectivement, ouais, c'est le sujet de la fin de vie pour cette jeune, mais aussi et surtout, en fait, c'est pas concentré que sur elle, c'est aussi la gestion de cette crise qui touche la famille en fait. Donc voilà, la maladie grave au sein de la cellule familiale, comment ça se passe aussi. Effectivement, ce sera donc le film d'ouverture qui sera diffusé au cinéma Le Vox à Mayenne. Pour parler de ça, on a une intervenante qui est d'ailleurs déjà venue pour les rencontres cinéma et santé et dont l'échange avait été très apprécié par le public. C'est en fait Nicole Poré qui est une psychologue psychanalyste. Et donc, on est très content de l'accueillir à nouveau pour échanger de ce film.
Donc, ce film qui fera l'ouverture le 17, ce sera suivi d'un autre film, peut-être, enfin, en tout cas, qui, moi, me parlait plus, j'allais dire, dont on a plus entendu parler, Drunk, de Thomas Vinterberg. Alors là, peut-être résumer le pitch en quelques mots.
Alors, en quelques mots, Drunk, c'est l'histoire d'une bande de copains qui entendent parler d'une théorie comme quoi, finalement, il manquerait à tous les êtres humains quelques grammes d'alcool dans le sang. Théorie peut-être dont on pourrait évidemment douter, et donc ils décident de boire suffisamment pour avoir toujours de l'alcool dans le sang et toujours avoir au moins un certain seuil qui dépasse d'ailleurs très fréquemment, et donc voilà, c'est un film sur les dérives de l'alcool, sur à la fois quand même le côté, je dirais, presque un peu positif qui désinhibe en fait et qui rend les gens plus, enfin qui les aide à sociabiliser. Et puis sur évidemment toutes les dérives négatives qu'on connaît, mais que dont il est important parfois de rappeler les effets. C'est un film qui a déjà qui parle plus, qui a déjà été certainement beaucoup plus vu. Mais nous, le pari qu'on fait, c'est que les gens reviendront certainement le voir parce que là, il est accompagné et que c'est aussi ça les rencontres cinéma et santé. C'est pas que le film, c'est surtout l'échange qui est après. Là, il sera accompagné notamment voilà de Gilles Monsalier, qui est le coordinateur d'Alcool Assistance en Mayenne. Et puis, il sera présenté dans deux cinémas, à Saint-Pierre-des-Nies et à Renazé.
Et le lendemain, justement, alors là, ce sera une première à Laval, avec la projection, là aussi, on change d'univers complètement, de Sound of Metal, où là, on va parler, alors, comme son nom l'indique peut-être dans le titre, et de métal, de musique, et aussi de surdité, finalement, c'est ça ?
Exactement, avec un film, donc pourtant c'est une fiction, mais qui a la particularité d'être vraiment immersif, puisque même au niveau de la bande-son qui est très travaillée, on se retrouve en fait dans l'univers de ce batteur de métal qui petit à petit perd l'ouïe jusqu'à devenir complètement sourd. Et donc c'est un film qui est tout récent, ça fait partie des films qu'on a ajouté à la programmation, parce qu'il nous semblait tout à fait pertinent dans le cadre de ces rencontres, qu'en plus c'est un sujet qu'on n'a pas toujours l'occasion d'aborder, voilà, le handicap auditif. Et effectivement, il sera à Laval, enfin en tout cas au Cinéville, c'est la première fois qu'il y a une séance au Cinéville, c'était prévu l'an dernier, ça a été annulé. Il sera accompagné à la fois de Marina Guitois, qui est pareil, fait partie des intervenantes locales, qui connaît bien la culture sourde et le milieu culturel, et puis de David Tessier, un musicien du conservatoire de Laval Aglo, qui lui connaît le sujet déjà parce que il est sur les musiques amplifiées, donc il doit fréquemment se protéger pour éviter ce type de problème, et puis parce que lui-même a connu des acouphènes régulièrement. Donc ça, ce sera effectivement le jeudi 20 janvier au Cinéville de Laval. Et le vendredi 21 au cinéma de Goron. Toujours avec Marina Guitois et cette fois-ci aussi Julien Lègre, qui est une personne sourde et qui est un auteur et formateur en LSF, en langue des signes.
L'idée, c'est aussi peut-être de mettre en lumière des sujets dont on ne parle pas ou peu autrement, notamment au cinéma.
Tout à fait, oui, exactement. Des sujets dont on parle peu et puis des sujets qui sont quand même actuels. C'est pour ça que dans la programmation, on n'a que des films récents parce que on veut mettre en avant quand même les enjeux de santé contemporains.
Une première là aussi à Château-Gontier, la projection du documentaire À la vie de Daude Pépin. Donc où là, on retourne peut-être du côté plus hôpital, mais plus précisément à la maternité, vraiment où on va suivre une ou plusieurs aides-soignantes, c'est ça ?
Surtout une, c'est Chantal Birman, et qui d'ailleurs sera présente. Donc là, on ne pouvait pas rêver d'intervenante plus pertinente que celle-ci, puisque c'est la protagoniste principale du film. Et Chantal Birman, qui est donc une sage-femme, et donc on va la découvrir au fil de ce documentaire, et qui est surtout aussi une militante féministe très, très engagée, en fait. Voilà. Elle a un point de vue sur la maternité. Peut-être assez différent d'autres, en tout cas, elle l'assume vraiment, et on va voir voilà, que c'est quelqu'un de très engagé en tant que féministe, en tant que soignante. Et puis, elle sera accompagnée aussi d'ailleurs de deux autres personnes, de Sylvie Derise, une sage-femme libérale, et du docteur Héloïse Roger, qui est médecin généraliste à Château-Gontier. voilà, pour confronter aussi les points de vue et les différentes approches à ce milieu.
On reste à l'hôpital, mais du coup, pas dans le même service, on va dire. Plutôt là pour parler des soins palliatifs, et en tout cas de la fin de vie, avec un autre documentaire, là aussi. On retrouve vraiment et des fictions et des documentaires hein, à chaque fois. Oui. Un autre documentaire, là, celui de Perrine Michel, Les équilibristes. Perrine Michel qui sera d'ailleurs présente lors de la projection le 26 janvier à Mayenne.
Exactement. Alors, Les équilibristes, c'est un documentaire, en fait... Donc sur la fin de vie, comme tu le disais, ce qui se passe, c'est que pendant que la réalisatrice faisait ce documentaire au sein des soins palliatifs, enfin du service de soins palliatifs dans un hôpital, il s'avère qu'elle était aussi en train de perdre sa maman. Donc en fait, on a à la fois ce documentaire, donc voilà, on voit l'équipe de soins palliatifs et en même temps on entend au téléphone ses conversations avec sa mère et donc la réalisatrice qui vit la même chose et qui apporte quand même une touche de poésie en filmant des danseuses en fait sur scène, voilà. Donc c'est ouais, c'est un processus assez original pour parler de ce sujet, pour peut-être le rendre un peu moins lourd et plus facile aussi à regarder à l'écran, mais qui aborde pourtant des thématiques très, très importantes et de façon très sérieuse. Et donc effectivement, Perrine Michel sera là pour parler de son processus de réalisation. Et puis on aura aussi Marie-Thérèse Leblanc-Briot, qui est médecin en gériatrie et soins palliatifs, et puis surtout qui était ancienne coordinatrice du réseau Palia 53. Donc voilà, spécialiste des soins palliatifs aussi. Et ça, ce sera effectivement une séance aussi au Vox, parce qu'on le disait, il y a un film par soir dans chaque cinéma, sauf à celui de Mayenne, où il y en a trois, mais en fait c'est historique, c'est parce que les rencontres cinéma et santé, elles étaient organisées à la base dans le Nord Mayenne, c'est pour ça.
Deux derniers films que vous proposez, Une vie démente, donc là ce sera proposé le 27 janvier à Évron, Funambule, là ce sera le film de clôture, un film proposé d'ailleurs en avant-première.
Donc là c'est un documentaire, c'est le troisième documentaire de la programmation, et... aussi avec le réalisateur Ilan Klipper et la productrice du film Ève Robin. Et donc là, c'est vraiment c'est un film assez immersif en fait, pour plonger dans l'univers sensoriel des personnes qui souffrent de maladies mentales en fait. Donc c'est différents portraits de ces personnes-là. Et ce sera aussi accompagné d'une psychologue clinicienne, Eline Carton. Et donc là, petite spécificité aussi de cette séance, c'est qu'il y aura un avant-programme en fait, puisqu'il y aura une projection lecture d'un photoreportage qui a été réalisé par Arnaud Rouanet, et notamment sur le thème de la maladie mentale. C'est pour ça qu'on voulait le mettre en avant pour cette soirée de clôture. Donc ça a été permis grâce à une résidence donc de Mayenne Communauté. C'est comme ça que Arnaud Rouanet a pu faire son photoreportage. Donc il sera présent à l'avant-séance pour présenter ses photos et puis en faire une lecture.
Le programme complet est disponible sur le site atmosphère53.org, mais aussi en version papier dans tous les cinémas participants. Vous pourrez aussi évidemment trouver les tarifs pour chaque séance, sachant que ça correspond aux tarifs de chaque cinéma. On fait une petite pause en musique avec Holiday, Me and My Friend, et on revient juste après parler rugby. Thank you.
with every whisper made.
Friend Holiday, c'est ce que vous venez d'écouter sur l'autre radio, évidemment. Et là, on passe au sport. Direction, évidemment, les stades et les salles de sport avec Steven, comme chaque vendredi. Et Steven qui nous emmène aujourd'hui du côté du ballon ovale à Château-Gontier avec le manager du club castro-gontérien. Et au menu de cette chronique, les bons résultats en senior et le développement d'une section féminine.
Allez, direction le club de rugby de Château-Gontier avec son manager sportif Bertrand Ducot. Alors bonjour Bertrand, comment se porte le club de Château-Gontier ?
Bonjour Steven, mais du coup le club se porte bien, malgré la situation sanitaire qui peut aussi ralentir les activités à certains moments. Mais dans l'ensemble, le club a une hausse des licenciés, donc c'est déjà un point positif. Au niveau des compétitions, l'équipe senior est actuellement premier de poule invaincu. Donc on espère se qualifier en deuxième partie, donc à la troisième série régionale. Et voilà, donc l'ensemble reste assez positif pour le moment.
En effet, on a pu observer des résultats extrêmement positifs justement sur le territoire de Château-Gontier. Le club souhaite justement se développer avec un nouveau projet, celui de proposer une filière féminine. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce projet et donner envie aux amatrices de rugby de venir au niveau du club ?
Oui, c'est une volonté du club de développer un peu cette section qui est absente depuis quelques années. Il fut un temps où on avait une équipe féminine et puis des filles qui jouaient dans une entente un peu départementale, comme on pourrait dire. Et ce qui fait qu'on a encore des joueuses qui jouaient l'année dernière à Laval. Et cette année, elle a raccroché les crampons et on essaie plutôt d'avoir un noyau plutôt castro-gontérien pour éviter les déplacements, sans pour autant oublier nos partenaires de Laval qui permettront à nos filles de jouer. L'idée de développer aussi cette section féminine, ça fait suite à des questions justement qu'on a régulièrement sur est-ce qu'il y a une équipe féminine à Château-Gontier. Et voilà, donc on oriente les filles un peu vers Laval quand on n'a pas la possibilité d'avoir ce noyau. Et quelques jeunes joueuses qui sont obligées d'arrêter quand elles arrivent à des âges où il faut se séparer des garçons et être dans une équipe féminine. Donc l'idée, ça serait de pouvoir permettre à ces joueuses-là de pouvoir continuer dans des catégories plus âgées et aussi de faire découvrir le rugby féminin sur le territoire de Château-Gontier. Puisque voilà, s'il n'y a pas d'équipe, on ne se pose pas la question d'aller jouer au rugby. Donc l'idée, c'est d'avoir quand même un petit noyau sur Château-Gontier.
Alors, vous prendriez à partir de quel âge ? Est-ce qu'il y aurait une école dédiée féminine au départ pour les petits ? Ou est-ce que vous allez surtout vous axer sur d'abord la base, puis derrière avoir un peu la filière complète ? Ou si on peut avoir directement une vitrine un peu plus senior pour attirer justement les plus jeunes ?
Alors, dans les règlements, les plus jeunes doivent jouer avec les garçons, puisque c'est mixte jusqu'en à moins de 14. Et c'est ensuite qu'ils vont avoir la catégorie F15, donc les moins de 15 ans. Et donc, pour ce parti-là, il n'y a aucun souci, elles peuvent être intégrées facilement dans les équipes du club. C'est ensuite qu'il faut avoir donc ces partenariats avec les clubs autour de Château-Gontier, mais aussi peut-être donc ce noyau. Et on n'a pas vraiment de préférence. C'est plus, vous voyez, là récemment, juste avant les fêtes, on a 7 filles qui sont arrivées, donc elles sont de la catégorie F18, c'est-à-dire moins de 18 ans. Donc c'est vrai que là, il y a un créneau à prendre de ce côté, c'est-à-dire qu'il manque quelque chose de plus pour avoir vraiment de quoi faire ce noyau et peut-être même une équipe purement castro-gontérienne un jour. Après, c'est vrai que bon, ça peut aussi bien arriver des filles dans la catégorie F15 dont on parlait tout à l'heure, ou en senior également. Sachant qu'en senior, on peut aussi développer le côté rugby sans plaquage, qui est aussi peut-être une passerelle pour celles qui n'ont jamais pratiqué avant et qui souhaitent d'abord essayer un peu de toucher du ballon ovale sans trop de risques entre guillemets.
Donc avis aux amatrices de rugby pour se développer justement et venir essayer et découvrir la pratique du rugby à Château-Gontier. Une dernière question, grand fan de l'équipe de France de Fabien Galthié, un petit mot un petit peu depuis son arrivée, puisqu'aujourd'hui quand même on a une équipe de rugby, une équipe de France qui quand même... fait partie des grands favoris quand même après les niveaux au niveau des résultats. Un petit mot justement sur cette équipe qui peut justement apporter une dynamique et une augmentation des licenciés au sein du club.
Oui, c'est vrai que Fabien, enfin, le projet même de la fédération d'avoir un staff très étoffé et d'avoir confiance aussi aux joueurs, je pense qu'ils se sont pas mal approprié leur projet de jeu, et ce qui fait qu'ils arrivent à jouer avec moins de poids sur les épaules et d'avoir les résultats qu'ils ont aujourd'hui. C'est une très bonne chose, surtout que en 2023, la Coupe du Monde se jouera en France et qu'il y a, je pense, un billet à prendre pour une finale tout au moins. Et donc à partir de là, c'est vrai que ça créera une dynamique auprès des jeunes qui rejoindront les clubs, comme on peut le voir à chaque Coupe du Monde, que ce soit au foot ou au rugby. Ça crée une dynamique qui est bonne pour tous les clubs et pour que le rugby soit un peu plus démocratisé, un peu plus présent sur le territoire aussi de la Mayenne, qui n'en est qu'à son troisième club pour le moment et qui n'attend plus qu'à grandir.
Merci beaucoup Bertrand, on souhaite le meilleur au club de Château-Gontier et on va suivre vos résultats et notamment on espère le projet d'une équipe féminine au niveau du club.
Merci Steven et merci à l'autre radio.
Et oui, moi aussi je dis merci à Steven pour cette chronique et on partira évidemment vendredi prochain à la rencontre d'un nouveau dirigeant d'un sport dont on n'a pas parlé. On parlera là rameur, pointe de bateau et barreur, ça ce sera vendredi prochain. On passe à l'agenda de ce week-end avec notre petite sélection et demain un concert à Château-Gontier en faveur de l'association Leucémie Famille 53. Il est organisé par 5 élèves du lycée professionnel Robert Schumann à Château-Gontier. Et donc c'est un concert de la chorale Singlish avec des musiques anglaises populaires. Il a lieu à partir de 20h30 à la salle des fêtes de Château-Gontier. L'entrée est à 4 euros. Vous pourrez aussi du côté de Laval aller au théâtre du Tiroir ce week-end avec samedi à 20h15 deux concerts pour le prix d'un, Lulu de l'Est et Sonia Dora qui seront sur scène, une pianiste et une guitariste avec beaucoup de naturel en tout cas dans leurs prestations. Et puis dimanche à 16h, retrouvez les Contes de l'Inde, le rire de la lune à partir de 6 ans. Ce sont des petites fables modernes venues de l'Inde ancienne à découvrir ou redécouvrir. Ce week-end sonne aussi le début du tremplin des émergences avec le premier week-end, les premiers concerts demain, mais aussi le 22 et le 29 janvier. Le principe, peut-être que vous le connaissez, c'est 9 artistes émergents donc, qui vont pouvoir ensuite être sélectionnés pour avoir un accompagnement renforcé avec le 6x4 et participer à un concert final dans la salle de spectacle de Laval. Et donc, on commence demain à Cossé-le-Vivien avec 3 artistes sur scène, le rappeur Big Mac et le groupe de folk Émissaire, et les rockers psychédéliques de Purple Leaf qui seront donc sur scène et qui pourront peut-être être sélectionnés donc pour participer à ce concert final en novembre prochain. Et puis un petit bonus, ce soir il reste des places pour le spectacle à Saint-Quentin-les-Anges intitulé Fracasse ou les enfants vermiraux de la Compagnie des Eaux. Ce sera donc à 20h30 à la salle des loisirs de Saint-Quentin-les-Anges et c'est l'histoire de 3 orphelins qui décident de se révolter contre l'autorité des adultes et de retrouver leur liberté. Pour les places, tarifs entre 3 et 13 euros. Il reste encore quelques places, je vous le disais. C'est la fin de notre émission L'Agité du Local pour ce vendredi. Restez avec nous puisque ce soir, il y aura Passe-moi le thème avec un hommage aux artistes disparus l'année dernière, en 2021. Ce week-end, parmi vos émissions à retrouver à 13h, demain, il y aura Rock Dreams avec Climax Blues Band et à 17h, Bud Station. Dimanche matin à 11h, ne manquez pas Sport Épique. Nous, on va se retrouver lundi à 12h15, ben oui, comme d'habitude. Et je vous souhaite évidemment un très bon week-end.